Merci Attila de nous avoir montré que la France n'était pas la seule à avoir des difficultés à mener des réformes et aussi que chez nous, la transition n'était pas encore achevée. Nous allons passer maintenant au troisième intervenant, Thierry Pech. Thierry est secrétaire général de la République des idées, une petite maison intellectuelle qui souhaite, je cite, « participer à la refondation de la vie intellectuelle en France et en Europe ». Petite page de publicité à cet égard, elle publie des petits livres très bien faits, puis aussi une revue mensuelle avec une grande ouverture internationale et souvent très intéressante, tirée aussi des activités d'éditeur. Il est juriste de formation, il a travaillé à la CFDT, il a écrit des ouvrages, dont un qui est sur les multinationales du cœur, une réflexion sur l'organisation des ONG à l'échelon mondial et une réflexion aussi juridique et ce sera justice. Thierry, la parole est à toi pour aussi un quart d'heure.
Merci. On m'a demandé de venir avec deux casquettes, une ancienne et une contemporaine. L'ancienne, c'est celle du syndicaliste que j'ai été pendant quelques années à la CFDT. Et la nouvelle, c'est celle de la République des idées. Donc, je vais faire deux grandes observations, une avec la casquette syndicale et l'autre avec la casquette intellectuelle. Vous verrez d'ailleurs que les casquettes se complètent. Sous la casquette syndicale, je voudrais faire part de l'expérience qui a été la mienne, d'abord auprès de Nicole Notat, puis auprès de François Chérec, dans des contextes assez différents, mais notamment dans la deuxième période, dans le contexte de la réforme des retraites, et certains ici s'en souviennent. Donc j'ai vu d'assez près la pratique. Et d'ailleurs, à vous écouter ce matin, je voudrais vous sensibiliser à l'immense vide qui sépare vos réflexions très théoriques de la pratique politique des réformes et de ce qu'il faut de considérations historiques, sociologiques, de savoir-faire aussi quand on se situe dans le champ pratique. Alors, l'expérience syndicale, c'est d'abord l'expérience de la faiblesse. Je ne vais pas m'étendre très longtemps. Le syndicalisme français est un syndicalisme dont la sociologie est extrêmement étroite et mince et qui tient la plus grande partie de sa légitimité à prendre la parole publiquement et à l'échelon national d'une forme d'affirmation ventriloque du salariat français, c'est-à-dire qu'il parle par procuration à travers ses représentants. Il ne faut pas s'en moquer d'ailleurs trop facilement, parce que c'est vrai qu'ils portent la parole aussi de gens qui se taisent et qui ne se sont pas syndiqués. Mais enfin, l'argument est faible. Alors évidemment, c'est un syndicalisme, on peut dire, d'insider, avec une surpondération publique, je ne vous apprendrai rien là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'épreuve de la négociation sociale, vous découvrez que les partenaires qui sont en face de vous sont aussi des partenaires très insider et très faibles. C'est-à-dire que vous mettez autour d'une table le syndicalisme que je viens de décrire rapidement, mais des représentants patronaux ou Monsieur Gilles Saint-Paul, vous ne trouveriez pas beaucoup d'amis de l'économie de marché telle que vous la concevez.
Mais je sais, j'ai travaillé pour vous.
Voilà. Je me souviens d'une formule. Ça va continuer. Et je me souviens d'une formule de Ernest Antoine Sellière en août 2002 qui écrivait l'anomalie du capitalisme, c'est le marché. Donc voilà, c'était très clair. Vraiment, je ne résume pas, ce sont les mots qu'il utilise. Vous avez fait référence tout à l'heure à l'étude de Philippe Askenazy qui montre quelque chose d'assez net, c'est une étude sur la grande distribution alimentaire. Qui montre que la grande distribution alimentaire, appuyée par l'État, s'est protégée des formes de concurrence que pouvait représenter pour elle le hard discount allemand en particulier, mais aussi le hard discount français, ce n'était pas tellement un problème national, et ce, au détriment du pouvoir d'achat des consommateurs, de l'emploi. On estime à entre 50 et 100 000 les emplois non créés, donc perdus, qui en plus étaient d'autant plus précieux que c'est des emplois pour une main-d'œuvre faiblement qualifiée, donc visant des gens qui ont besoin de s'intégrer sur le marché du travail. Au détriment aussi, enfin, des conditions de travail des salariés des grandes surfaces traditionnelles. Donc vous avez en face de vous ce capitalisme-là, ce qui ne simplifie pas les choses, vous voyez. Et puis enfin, vous avez un État qui ne se distingue pas non plus pour sa recherche du compromis et du dialogue social. C'est un peu comme la redistribution. En période électorale, ça l'intéresse. Hein, enfin, la classe politique, ça l'intéresse à ce moment-là. Mais après, on l'a éprouvé pendant 5 ans, j'ai vu ça d'assez près aussi, au fond, ce que les syndicats, la société civile, les partenaires sociaux représentent, ce qu'ils disent, leurs analyses, etc., l'État s'en fout. Voilà. C'est à peu près le résumé le plus fidèle que je peux faire de ce que j'ai vu. Au fond, ils s'en moquent pas mal. Et d'ailleurs, ça va recommencer. Là, on est dans une période électorale, donc on veut croire à cette dramaturgie qui est, augmentée par la forme du régime français. Hein. On veut croire que tout sera différent après. En réalité, on voit déjà se dessiner les rendez-vous manqués d'après. Prenez l'affaire du contrat unique. Alors, l'affaire du contrat unique a d'abord été un contrat qui s'inspirait de l'esprit du CNE, puis on a rangé tout ça. Le contrat unique est devenu un contrat à durée indéterminée, mais dont personne ne précise exactement les contours. Donc c'est un contrat indéterminé, c'est plutôt ça la réalité. Et ce contrat indéterminé, il est d'autant plus indéterminé que maintenant c'est les partenaires sociaux qui devront s'en saisir pour dire ce qu'ils en feront. Mais un an plus tôt, dans un discours de la Baule, le même candidat qui soutient ces projets expliquait que si les partenaires sociaux bloquent, on s'en passera. On s'en passera, on passera en force. Donc, la période qui vient risque de ressembler à celle qui a précédé. Ça, c'était la casquette syndicale. C'est assez pessimiste, je m'en excuse, mais c'est ce que j'ai vu. Sous la casquette intellectuelle, je voudrais revenir sur un certain nombre de développements qu'a exposé Bruno Amable. Concernant en particulier le bloc de gauche et son évolution, c'est-à-dire la sociologie électorale, en particulier de la gauche française. Je suis d'accord sur le fait général qu'il y a eu éclatement du bloc de gauche et du bloc de droite tel qu'on pouvait les situer en 78, etc. En 2002, on n'est manifestement plus dans cette situation. Mais je pense qu'il faut faire une sociologie un peu plus fine des morceaux qui se sont séparés. Et je pense qu'on doit aller plus loin que le simple constat qu'il y aurait eu éclatement du bloc de gauche avec d'un côté un salariat du public qui serait resté tourné vers la gauche de gouvernement et de l'autre un mouvement ouvrier qui lui l'aurait quitté. Les études qu'on avait pu faire avec Éric Morin et Dominique Gou sur cette élection le 21 avril 2002 que vos étudiants ont pris pour référence, mais aussi sur les régionales, montrer un tout autre, enfin, pas un tout autre phénomène, un phénomène plus complexe. Voilà. C'est-à-dire que l'idée qu'on a beaucoup retenue de 2002 dans l'espace public, c'est qu'au fond, il y avait une société française dualisée entre son bas et son haut, ses élites et ses classes populaires. En fait, la dualité a traversé, sans qu'on l'ait bien vu, les classes populaires elles-mêmes. Et en avril 2002, ce qu'on a pu observer, quand on rapporte les votes réels par département à la structure socio-professionnelle fine, non pas par grande CSP, mais par sous-CSP des populations en âge de voter, ce qu'on constate, c'est que les grandes industries en déclin, donc les ouvriers, je dirais, de type classique, de type industriel, ont plutôt été structurés à un vote de type anticapitaliste, de rejet des cultures de gouvernement, certes, mais sous une forme qui n'est pas comparable à celle du Front National ou à ce que l'abstention peut signifier de commun, alors que tout un salariat modeste, fortement exposé aux relations de marché, dans le monde de l'économie des services, dans les ouvriers qui travaillent dans des entreprises de services à l'entreprise, etc., lui, s'est beaucoup plus tourné vers l'abstention ou le Front National. Et ce sont deux sociologies dont il faut tirer des conséquences pour la suite. Et la conséquence que j'en tire, je vais faire très bref pour pas dépasser le cadre de l'intervention, est donc très schématique, et donc on pourra trouver beaucoup de défauts à ce que je vais dire. Je dirais qu'il y a aujourd'hui trois Frances. Il y a une France de la stabilité, qui penche à gauche, qui est faite d'insiders, vous diriez, de gens qui sont proches de la sphère publique, qui sont faiblement exposés à des relations de marché, qui travaillent, lorsqu'ils sont dans le privé, souvent dans de grandes entreprises où leur relation d'emploi est relativement protégée, même s'ils se sentent plus ou moins menacés par la société qui est en train de s'élaborer. Cette France-là, sociologiquement, elle penche à gauche. Alors, elle peut se faire prendre quelque part de marché, mais globalement, c'est plutôt la force longue. Seulement, cette France-là, démographiquement, elle ne peut plus construire seule une majorité. C'est fini. La deuxième France, c'est la France que j'appellerais de l'indépendance, pas la France des indépendants seulement. Hein. La France de l'indépendance, c'est-à-dire c'est une France qui est sociologiquement composée de gens qui ont le sentiment de pouvoir s'en sortir par eux-mêmes, par leurs qualifications, par leurs talents sur le marché. Et on retrouve là, bien sûr, des chefs d'entreprise, cadres supérieurs du privé, mais aussi des professions libérales, des artisans, des commerçants, etc. Celle-là, elle penche à droite, c'est une surprise pour personne, même si elle a perdu des plumes par rapport aux gens qu'elle fédérait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et puis, il y a la troisième France. Et celle-là, elle fait que le triangle que je suis en train de dessiner ressemble fort, à mes yeux, à un véritable triangle des Bermudes pour la vie politique française. On peut s'y perdre, on peut s'y noyer. Cette France-là, elle est faite de tout ce salariat qui n'a jamais été socialement ni politiquement organisé. C'est celui qui s'est tourné vers l'abstention et le Front National en 2002. C'est celui qui s'est à nouveau tourné vers l'abstention et des formes de rejet en 2004 aux élections régionales, mais dans un contexte où la gauche pouvait incarner le rejet parce qu'elle avait fait une campagne très dure à gauche, une campagne, je dirais même démagogiquement à gauche. Et cette France-là, elle est démographiquement très lourde, et contrairement aux deux autres, enfin, plus pas contrairement aux deux autres, mais les deux autres ont besoin d'elle pour faire une majorité, aujourd'hui. Les deux premières ne suffisent pas, donc elles ont besoin de la troisième. Et cette France-là, elle est politiquement beaucoup plus imprévisible. Et à partir de là, il me semble qu'il y a trois scénarios possibles. Cette troisième France, on pourrait l'appeler la France de l'instabilité, mais on pourrait aussi l'appeler, en se souvenant du sens ancien du mot, la France de l'infortune. Celle qui est exposée aux infortunes, au coup du sort. Donc il y a trois scénarios. Premier scénario, c'est une alliance classiquement social-démocrate, je dirais, de la stabilité et de l'infortune. Le problème, c'est que la gauche française, plus elle s'approche de l'une, plus elle s'éloigne de l'autre. Elle est dans la situation de l'âne de Buridan. Il a faim et soif, il y a un seau d'avoine et un seau d'eau, et plus il s'approche du seau d'avoine, les fonctionnaires par exemple, plus il s'éloigne du seau d'eau. La seule leçon, vous vous en souvenez si vous avez fait un peu de philosophie médiévale de l'âne de Buridan, c'est que le pire, c'est de ne pas bouger. C'est le seul scénario dans lequel on est sûr de mourir. Donc il faut bouger. Mais il faut bouger avec un risque de mourir de faim ou de soif élevé. Donc, je sors de la métaphore. En gros, plus la gauche fait la danse du ventre devant le secteur public, plus elle s'éloigne de cette troisième France. Parce que j'ai oublié de dire quelque chose, mais qui me semble, c'est peut-être trop, non, très intuitif, mais il me semble que ces trois Frances ne s'aiment pas beaucoup. Elles n'ont pas entre elles n'ont pas l'une de l'autre, les unes de l'autre, des images très favorables. Ce premier scénario, il semble difficile à réaliser aujourd'hui. Il y a un deuxième scénario, c'est l'alliance de l'indépendance et de l'infortune. Mais il y a bien sûr à ça des limites qui tiennent aux inégalités de destin, aux inégalités sociales les plus profondes, pas seulement de revenus, mais de rapports à l'avenir entre ces deux groupes, ces deux ensembles, qui rendent ce scénario difficile. Mais c'est en gros le pari sociologique que fait Nicolas Sarkozy, me semble-t-il. Puis il y a un troisième scénario, qui est à mes yeux le plus probable, c'est que cette troisième France continue à faire ce qu'elle a fait ces dernières années, c'est-à-dire qu'elle continue à chercher la voie du rejet, du dépit ou de l'abstention. Et pour revenir à notre sujet, l'économie politique de la réforme. L'économie politique de la réforme, elle va supposer quand même qu'on recouse un peu la société française, qu'on retrouve un langage commun entre ces trois Frances. C'est ça qui me semble être au cœur de l'élection qui vient. Et malheureusement, pour donner mon avis très rapidement, je ne vois pas de réponse à cette question-là au jour d'aujourd'hui. Merci.
Merci Thierry, tu exclus donc une alliance à l'allemande entre la stabilité et l'indépendance.
Non mais la grande différence, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est un débat qu'on n'a pas eu ce matin. Les pays où les réformes ambitieuses ont été conduites sont souvent des pays à système parlementaire et souvent avec des élections proportionnelles. Il y a des études assez frappantes là-dessus. Le régime français est un régime qui privilégie la conflictualisation, les contrastes durs, etc., et qui ne pousse pas à rechercher des consensus ou de nouveaux compromis sociaux. là, il y a tout de même un point qu'il faudrait interroger. On a un système politique qui est plutôt handicapant, je trouve, pour le sujet qui nous occupe.
Où l'on retrouve les institutions qu'évoquait Bruno tout à l'heure.